Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse?
Le règlement. Nous devons savoir.
Pour enfin démêler l'actualité judiciaire dans le monde du sport.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
De Maître Mongeon, comment ça va, Sophie?
Allô, Sophie!
Bonjour, ça va vraiment bien, et vous?
Ben oui, écoute, en forme le matin.
On va te répondre que ça va bien, mais ça va pas vraiment bien. T'sais, nous autres, non. On a subi ça difficilement à notre soirée d'hier soir, à regarder les Maple Leafs nous piler d'en face.
Oui, je comprends. Non, moi aussi, c'est sûr que ça m'atteint, mais bon, écoute, ça fait partie de la game. On peut pas toutes les gagner, c'est ce que je me dis. Bon, mais c'est un bon spectacle.
Dans les playoffs, tu peux pas en perdre bien, par exemple.
Oh, ça, c'est je le sais.
Mais quand
tu
arrives en salle de cours avec M. le juge ou Mme la juge ou les avocats, puis tout ça, là, un lendemain de défaite du Canadien en série, là, est-ce que ça trouve son bruit en cours? Est-ce que des références? Est-ce que l'humeur est différente?
Ben, écoutez, avec l'avènement de la pandémie, bon, on est beaucoup moins souvent en cours.
Je te parle dans ta carrière.
Autrefois, autrement, là, tu vois que quand les Canadiens font belle figure, etc., là, tu vois que l'environnement est positif. C'est comme une allumette de bonheur, là. C'est sûr. Ouais. Mais bon.
Ça va arriver quand M. le juge parle à l'accusé qui est là, puis des fois, c'est pas toujours formel, c'est pas toujours comme dans un film. Des fois, il y a un peu de small talk, là. Ça arrive-tu des fois qu'on parle de ça?
De sport, on va parler de sport, on va parler d'actualité, on va parler de toutes sortes d'affaires. Là. Oui, absolument, là, le sport fait une partie intégrante là, du monde judiciaire. Là,
tout la greffière, aurais-tu tapé quand ça arrive ou elle écrit ça aussi? Là?
Hey, là, je ne sais pas trop. Là, t'en poses des questions le matin.
Je vais demander à ma mère qui fait ça, justement, une greffière, donc je vais lui demander. À Chicoutimi, tout à fait. Alors, Éric Gagné. Toujours délicat, tu sais, des athlètes qu'on a adulés qui se retrouvent devant la justice. C'est toujours délicat, mais il faut en parler. Tu sais, on parle d'eux dans leurs meilleurs moments, mais quand il arrive des moins beaux moments, il faut le dire aussi, quoi qu'il y a toujours la présomption d'innocence, et c'est ici dont on va en parler, puisque Éric Gagné a plaidé non coupable. Raconte-nous les faits.
Ben oui, c'est ça. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte l'histoire, vous en faites ce que vous en voulez. Nous, on n'est pas ici pour juger personne. Et effectivement, tu as raison, LP, la présomption d'innocence, elle est présente et c'est sur cet esprit-là que je vous présente le dossier. Donc, effectivement, Éric Gagné est accusé d'avoir fui trois accidents le 31 juillet 2020. Donc, en matinée, il est sur l'autoroute 640 à Terrebonne et il frappe deux véhicules. Il n'arrête pas, il continue et aurait frappé un autre véhicule dans la bretelle de l'autoroute 640 à l'autoroute 40, donc dans le coin de Repentigny. Il n'a pas arrêté, il a pris la fuite et il a été localisé plus tard, donc il a été arrêté. Donc hier, c'était sa comparution et il ne s'est pas présenté, son avocat était là et son avocat a tenté de faire une ordonnance de non-publication. Vous savez c'est quoi ça?
Non, ben faut l'expliquer là.
C'est qu'on ne peut pas parler des faits finalement et ni nommer la personne?
Exact. Dans le fond, l'objectif, c'était de dire, écoutez, c'est sous huis clos, on veut pas en parler, on veut pas que le nom soit connu, parce qu'effectivement, Éric Gagné, c'est un nom qu'on connaît tous.
Mais il est trop tard, c'est sorti partout, cette histoire-là. Là.
Ben oui, puis là, de toute façon, là, quand l'avocat a constaté qu'il y aurait de la contestation des médias, il a abandonné tout ça et il a plaidé non coupable. Mais Éric Gagné, il est accusé de quoi? Il est accusé de conduite dangereuse, de faculté affaiblie et de délit de fuite. Conduite dangereuse, on sait que tu peux être condamné sous deux volets. Il y a toujours l'acte criminel puis la procédure sommaire. L'acte criminel, dans le fond, c'est avec des peines toujours plus importantes. Puis la procédure sommaire, c'est souvent utilisé, surtout quand c'est des premières fois. Et on sait qu'Éric Gagné, il n'y a aucun antécédent judiciaire. Donc, il y a des grandes chances qu'il soit jugé par procédure sommaire. Les différences sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'en conduite dangereuse, ça peut aller à un emprisonnement maximum de 10 ans si on va via l'acte criminel.
Ça dépend des conséquences? Exemple, causant la mort, tout ça, ça c'est facteur aggravant.
Exact.
Dans ce cas-ci, c'est pas le cas?
Non, ici, c'est pas le cas. Puis, conduite dangereuse, on va un petit peu plus loin. Si tu blesses des gens, c'est 14 ans. Et si tu... malheureusement, il y a une mort, là, c'est emprisonnement à perpétuité. Mais la procédure sommaire, c'est une façon où l'amende est maximale de 5 000 $ et tu peux pas être emprisonné plus que c'est 2 ans moins un jour. Et étant donné que c'est sa première offense comme telle, il y a des très bonnes chances que ça soit plutôt par procédure sommaire. Mais moi, ce que je trouve intéressant, là, les amis, dans ce dossier-ci, c'est le fait que lui, dans le fond, pour faculté affaiblie, on ne l'a pas arrêté sur le champ, on l'a arrêté plus tard. Alors, comment qu'on fait pour savoir si au moment de la conduite, il était en état, puis lui, c'était pas d'ébriété, il était en état de, c'était de la marijuana.
C'est ça, c'était faculté affaiblie par la drogue.
Ça, on peut pas le savoir.
Par la drogue.
Ça, c'est des prises de sang, puis il y a des policiers maintenant qui sont formés pour détecter ça, là, pour être capable d'analyser. Mais encore faut-il qu'on puisse avoir le suspect devant nous. Quand il s'est enfui, ben là, ça devient très difficile de faire la preuve que les facultés sont affaiblies.
Il y a une présomption d'infraction si dans les 2 heures suivantes ou le moment où tu as cessé de conduire, tu as encore une concentration de drogue dans le sang qui est égale ou supérieure à ce qui est prévu pour cette drogue. Et là, je dois avouer, je ne sais pas c'est quoi la base minime. Là. On sait que l'alcool, là, c'est commun depuis toujours, mais je ne sais pas au niveau de la marijuana exactement c'est quoi le taux minimum de seuil toléré.
Oui, puis c'est plus dur pour le taux et pour la mesure, mais je sais que de plus en plus, les corps policiers ont des policiers qui sont formés pour faire l'examen au poste. Là. S'il y a eu consommation ou non.
Ah, mais ça te prend un sample de sang ou
je pense que Gilbert, je pense que vraiment c'est de salive maintenant. Ils ont des petits petits appareils là, qui font en sorte là, que c'est plus facile comme ça. Là.
Alors voilà, on verra pour la suite des procédures pour Éric.
Ouais, mais tiens, on parle de ça, c'est arrivé le matin. S'ils sont allés chez eux à 3 heures de l'après-midi, là,
non, je pense pas qu'il y ait un gros délai tant que ça. Okay. Mais l'histoire le dit pas. Là, c'était vraiment la première procédure. Fait qu'on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Au courant là, des prochaines actions, là, on va en savoir un petit peu plus sur les faits.
On s'entend que délai de fuite, c'est l'un c'est quand même assez grave comme accusation là, parce que délit de fuite.
Ça veut dire que tu es au courant. Tu es au courant d'avoir frappé puis tu continues.
Oui, puis tu t'assistes pas à la personne qui peut être en danger. Là. Derrière, il y a des délits de fuite qui ont causé la mort. Là. Et ça, tu le sais pas quand tu viens de frapper et que tu t'en vas. Là.
Donc effectivement, mais c'est le même principe là, c'est les mêmes peines que la conduite dangereuse, fait que c'est aussi c'est considéré aussi grave là. Mais tu sais, quand ça va être le temps là, d'évaluer la peine, on va regarder s'il y avait un enfant de 16 ans dans l'auto, on va regarder s'il y avait si la personne faisait une course, si c'était un gros véhicule, il y a plein d'autres petites circonstances qui est pris en circonstances là, quand c'est le temps d'arriver à une peine là.
L'autre cas du monde du sport devant les tribunaux depuis une semaine, Sophie, ça se passe à Tampa Bay. Le dossier est sorti dans notre Tampa Bay Times il y a 48 heures. Le propriétaire majoritaire des Rays de Tampa Bay, Stuart Sternberg, aurait commencé à négocier une entente de partage avec Montréal bien plus tôt que ce qu'il a dit à ses actionnaires minoritaires. En fait, il aurait caché beaucoup de choses à ses actionnaires minoritaires qui le mettent en justice aujourd'hui.
Oui, effectivement, il y a une poursuite qui a été déposée en Floride. Ce qu'on sait, c'est que les Rays, c'est une franchise qui est à Saint-Pétersbourg depuis 1998. OK? Donc, il y a un contrat entre la ville et le club, comme quoi que tous les matchs à domicile doivent être joués à Saint-Pétersbourg jusqu'en 2027. Donc, ça va un peu à l'encontre de l'objectif de vendre l'équipe au groupe baseball Montréal. Donc, ce que Sternberg a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à faire un peu de maraudage. Puis, je l'avais indiqué là, dans mon petit document que je vous ai transmis hier. Ce qui est particulier, c'est quand on lit la presse canadienne, on parle plutôt de manigance, et quand on lit la presse américaine, on va parler de plot, de complot. Ouais. Tu sais, vraiment, là, on y voit là, qu'on le fait un petit peu plus, de façon un petit peu plus, comment je pourrais dire...
Incisif, là, c'est... Ouais.
Effectivement. Fait que ce qu'on dit, c'est que Sternberg, ce qu'il a fait, c'est qu'il a forcé, tranquillement pas vite, des actionnaires minoritaires à vendre leurs actions sur la base de fausses prémices.
Et donc, surtout que les actions, à ce moment-là, lorsqu'on leur vend, c'est un club qui va pas très bien au guichet, à Tampa Bay, on s'entend. Ça ne vaut pas très cher une action, mais quand tu as des projets comme ça, Sophie, et que tu les caches, ces projets-là peuvent faire monter la valeur du club et donc de toutes les actions, même si tu es minoritaire.
Oui, c'est ça. Mais Sternberg, quand il a commencé l'histoire de vente, etc., ou en tout cas, il pensait le faire, il y avait 49% du club en 2004. Aujourd'hui, il est rendu à 85%. Donc, tu as une coalition de quelques propriétaires qui ont moins de 10% des Rays qui ont entamé une poursuite pour lui pour forcer un administrateur judiciaire à reviser les finances de l'équipe. Il demande des dommages de plus de 30 000 US. Puis surtout, ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant ça tranquillement pas vite, en en faisant l'acquisition de d'autres actions, il est devenu majoritaire en 2020, il s'est créé une nouvelle société où il a tout transféré dans cette nouvelle société-là. Donc, il est un petit peu, il y a comme plus carte blanche. Alors, eux autres, ils disent, wow, 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 nous, en plus, on ne veut plus que la compagnie de Sternberg qui a créé en janvier 2020 agisse à titre de représentant au nom de l'équipe, là.
Alors, c'est disons que ça complexifie encore plus le dossier, même si c'était déjà assez complexe, l'idée des villes partagées et tout, là. Sternberg est loin d'être sorti du bois là, avec cette histoire-là, là-bas, là.
Oui, puis en plus, je comprenais pas vraiment pourquoi c'était si important, mais je constate que le début des négociations est vraiment important, que ça soit en 2014 ou en 2017, parce que Sternberg, il dit, moi, j'ai aucune discussion vraiment qui a commencé avant 2017, et au contraire, ça aurait commencé en 2014. Donc, cette histoire de temps-là est importante, parce que les actions qu'il a achetées en 2014 et 2017, il essaie de dire qu'il les a achetées tout simplement de bonne foi, et ce n'était pas en prévision de faire une transaction avec le groupe baseball de Montréal.
Et c'est venu à notre oreille bien plus longtemps après ça. Je me souviens très bien du matin où c'est sorti dans le journal en une. Gilbert Raymond, on était au club de golf à Sorel pour le tournoi de golf de Marc-André Fleury.
C'est vrai.
Et c'est ce matin-là qu'on avait eu des discussions à ce sujet-là. Et ça, c'était au printemps, même 2019. À l'été, début d'été 2019. Là.
Exact.
Et ça remonte dans le temps. Là. Pour nous autres, c'est 2 ans. Mais 2014... Oui. Ce projet-là, écoute, à ce moment-là, là, je me souviens, Manfred, tout ce qu'il disait, c'est on veut aider les stades d'Oakland puis Tampa Bay, bref, ce qu'il dit encore aujourd'hui. Et après ça, on parlera d'expansion. On était en processus d'expansion pour Montréal. Il n'était pas question de déménager les Rays. Maître Mongeon, merci pour ce survol de l'actualité juridique dans le monde du sport. Et puis, bonne semaine.
Bonne semaine.
Bye, Sophie.
Bye. Bye.